Avant de commencer par cette première instruction, quelques petits avis concernant les instructions que nous aurons ensemble. Le but de ces instructions, c'est véritablement d'élever l'âme à Dieu. C'est-à-dire que ce n'est pas d'abord d'instruire pour instruire, mais d'instruire pour aimer. Et par conséquent, en tout cas en ce qui me concerne, il n'y aura pas de plan. Il y aura un sujet, bien sûr, rassurez-vous, mais il n'y aura pas de plan, pas de structure, il n'y aura pas de grand 1, de petit 1, etc. C'est une sorte de suite de considérations qui vise à la méditation et surtout à l'oraison. La conséquence, c'est que ce qu'il faut noter, c'est quoi ? Bien sûr, vous pouvez tout noter quand les choses sont intéressantes, mais je vous encourage surtout à noter ce qui vous profite. Si vous sentez que telle considération, eh bien, vous pourrez prier dessus, que ça va aider votre prière à la chapelle, ou dans le jardin, ou dans votre chambre, eh bien, c'est ça qu'il faut noter. Parce que c'est là qu'il y a la grâce, c'est là qu'il y a le Saint-Esprit. Et enfin, si d'aventure ce que je vous dis est trop difficile ou peu clair ou trop facile ou pas intéressant, ben venez me voir et dites-le-moi, s'il vous plaît. N'hésitez surtout pas. N'hésitez surtout pas. Bien, commençons donc. Cette première instruction a pour objet Dieu. Donc, Dieu est notre vie spirituelle. Et notre vie spirituelle, ça pourrait être mis entre parenthèses. C'est Dieu d'abord. Nos âmes qui vivent dans le monde sont des âmes dispersées. Vous savez que dans la mer, on trouve des pieuvres qui ont de nombreuses tentacules et qui élancent leurs tentacules un peu partout. Et ça ressemble un petit peu à nos âmes. Nos âmes ont des tentacules. Ces tentacules, ce sont les diverses attentions dans la journée, les divers attachements de notre vie. Et ces tentacules vont un peu partout, dans tous les sens, parce que les créatures, les choses de ce monde sont multiples. Et par nécessité et par attrait, nous nous attachons à elles, et tout doucement se crée dans notre âme tout un tas d'attachement, tout un tas d'attention, d'intérêt, d'attachement, aussi nombreux qu'ils sont divers. Alors, ça dépend un peu des conditions de vie de chacun. Pour les étudiantes, eh bien, ce sont les classes, les examens, d'autres choses encore. Pour les mères de famille, ce sont des courses à faire, des enfants dont il faut s'occuper, etc. Peu importe, ça fait beaucoup et c'est nombreux. Et pendant de longues heures, il faut l'avouer, lorsque nous arrivons en retraite, pendant de longues heures, nos journées voient notre pensée oublier Dieu. Notre cœur s'attache à ce qu'il ressent, à ce qu'il aime, à ce qu'il entreprend, à mille et une choses. Il multiplie ses attachements et finalement il se brise lui-même en morceaux. Avec une petite partie de notre cœur ici, une petite partie de notre cœur ailleurs. Et alors nous souvenons des paroles de notre Seigneur à Sainte Marthe. Turbaris erga plurima. Tu te troubles sur beaucoup de choses, dit notre Seigneur à Sainte Marthe. Je crois que d'ailleurs que c'était marqué sur votre feuille de retraite qui annonçait la retraite. Turbaris erga plurima. Tu te troubles, tu te disperses sur une multitude de choses. Alors tu te brises en morceaux, tu te multiplies, tu te divises, tu t'agites. Eh bien, il faut bien reconnaître que c'est un peu l'état de notre âme en venant à cette retraite. Notre âme est dispersée, répandue. À force de s'activer, elle s'est dissipée. Peut-être même que non seulement elle oublie Dieu, non seulement son attention s'en éloigne, mais peut-être même se donne au péché. péché véniel, péché mortel peut-être. Vous savez ce que c'est qu'un verre de bière? Quand vous remplissez un verre de bière, si vous agitez trop la bière avant, pardonnez l'exemple, quand vous versez la bière dans le verre, la bière s'agite, mousse, puis se répand partout. C'est un peu l'image de notre âme. Quand notre âme s'agite trop, lorsqu'elle s'affaire, alors elle se répand partout. Il y en a partout. On a tout gaspillé. Et notre Seigneur appelle à Sainte Marthe, « Unum necessarium, poro unum ». Mais il y a une chose qui est nécessaire, et celle que Marthe a choisie, la contemplation de Dieu. Tu as oublié l'unique nécessaire. Tu fais beaucoup de choses, mais finalement tu oublies l'unique nécessaire. Tu es peut-être très forte dans les études, peut-être très forte dans ta famille, tu t'occupes bien de ton mari, mais finalement, et les créatures, ce sont les créatures, mais ton Créateur et ton Dieu. L'unique nécessaire. Alors on dira, c'est vrai monsieur l'abbé, mais il y a quand même des moments privilégiés dans ma journée. Si j'accorde 90 ou 95% de mon temps à des choses multiples à faire, au moins j'arrive à trouver 5 ou 10% de mon temps pour le donner à Dieu. C'est déjà pas mal, 5 ou 10%, ou 1% mettons. Alors, est-ce qu'il est bien sûr que ce temps soit à Dieu? Est-ce que dans la prière, notre pensée, notre attachement ne va pas aux choses de la terre, par les distractions? Qui peut se vanter de ne pas avoir de distractions dans la prière? C'est là notre lot commun. Nous avons une grande facilité pour les choses de la terre et une immense difficulté pour Dieu. Nous avons nous occuper aux activités, aux hommes, aux choses de la terre, en général, c'est pas difficile. Même quand on est paresseux, quand on est paresseux, c'est encore les choses de la terre, notre repos qu'on aime, et c'est pas difficile. Mais par contre, lorsqu'il s'agit de s'appliquer au bon Dieu, par la tête et par le cœur, alors là, c'est l'héroïsme. Regardez, par exemple, l'effort qu'il ne faut pas faire pour se recueillir dans la journée, au milieu des choses à faire. Et on pense avec nostalgie à Saint-Louis de Gonzague. Saint-Louis de Gonzague, c'était exactement l'inverse. Il disait, quand dans mes journées, je suis appliqué au bon Dieu, et c'était constant chez lui, son cœur était tout uni à Dieu toute la journée, seconde après seconde, lorsque je dois quitter cette attention pour faire quelque chose de concret, c'est une véritable agonie. Ça m'est extrêmement difficile, extrêmement pénible. Ce témoignage de Saint-Louis Gonzague peut-être nous donne le vertige. Parce que pour nous, c'est exactement l'inverse, peut-être. Peut-être. Et quand bien même nos moments de piété seraient non distraits, regardons un peu notre vie spirituelle, notre vie d'oraison. Est-ce qu'elle n'est pas un peu centrée sur nous et non sur Dieu ? Est-ce que dans notre prière, dans nos examens de conscience, dans notre vie spirituelle, ne nous sommes pas trop occupés de nos défauts, de nos vertus, de nos pénitences, de notre prière? N'y a-t-il pas une coquetterie spirituelle? Cette prière n'est-elle pas trop souvent une demande de nos besoins, de telle façon que nous mettons le bon Dieu à notre service? Et non pas nous-mêmes au service de Dieu. La vie spirituelle, souvent, est compliquée parce qu'elle est Dieu mis à notre service. Dieu mis au service de notre perfection. Au lieu que ce soit nous qui soyons au service de Dieu. Finalement, Dieu est le grand oublié. Le grand oublié. Celui qui n'oublie jamais rien, qui ne m'oublie jamais et que j'oublie toujours. Celui qui toujours pense à moi et celui que bien souvent j'oublie. Il me regarde et je regarde ailleurs. Il ne fait que m'aimer et moi j'aime autre chose. Pas pour lui, sans lui. Il a tout fait pour lui et moi je fais tout pour moi. Il m'a aimé et s'est livré pour moi, comme dit saint Paul. Et moi, je l'offense, je le mets de côté. Alors, chers amis, cette retraite sera pour nous en deux mouvements. Le premier mouvement sera ce mouvement que nous avons décrit, un mouvement d'une immense confusion. La confusion, là, c'est-à-dire l'âme qui est confondue, qui reçoit la douleur, la sainte douleur de la contrition, cette douleur, ce cri de douleur muet de l'âme qui s'aperçoit qu'elle a oublié le bon Dieu, qu'elle s'est investie dans mille et une choses et surtout dans elle-même, mais qu'elle a oublié finalement le bon Dieu, même dans sa vie spirituelle, qu'elle a oublié par le péché mortel, par le péché véniel, par l'activité, par les choses à faire. Ce sera le premier mouvement, une contrition. Mais une contrition, saint Thomas d'Aquin dit que la contrition, c'est aversio a creaturas, conversio ad Deum. C'est-à-dire l'aversion de la créature, je me retourne loin de la créature et je me tourne vers Dieu. Voilà la contrition. Je me détourne des créatures et je me tourne vers Dieu. Et la contrition s'oppose au péché. Le péché, nous dit saint Thomas, c'est aversio ad Deo et conversio ad creaturas. Je me détourne de Dieu pour me tourner vers les créatures. Donc l'âme va sans cesse d'un mouvement de péché au mouvement de la conversion. Et pour nous, cette retraite doit être un mouvement de conversion. Je me détourne des créatures, du péché mortel, du péché véniel, de l'état de péché, de l'occasion de péché, mais aussi de la tiédeur, de la froideur, de la sécheresse pour aller à Dieu. C'est le premier mouvement de l'âme, une confusion. Et le deuxième mouvement, c'est un immense désir de Dieu. Vous savez, notre Seigneur, ce cri qu'il pousse sur la croix, Sitio, j'ai soif, j'ai soif. Soif des âmes, soif de notre amour. Alors il faudrait que nous répondions aussi au pied de la croix dans cette retraite, Sitio, j'ai soif aussi. Soif de vous, Seigneur, soif de votre amour. Non pas soif de sainteté tant que soif de Dieu. Et le cardinal Bérulle disait, il faut premièrement regarder Dieu et non soi-même. Ainsi, il faudrait marquer ça en lettres d'or dans nos âmes. Il faut premièrement regarder Dieu et non soi-même, s'oublier, se livrer, comme disait saint Thérèse Coudert, s'oublier. Alors bénissons le bon Dieu qui se rappelle à nous, qui se rappelle à nous et qui nous donne cette retraite pour nous tourner vers lui. Bien sûr, pour faire le point de notre âme, le point de nos péchés, de nos vertus, de nos etc. Mais pas tant le point de notre vie spirituelle, c'est pas tant ça que le point vers Dieu. Vous voyez, je pense que cette retraite, faites attention, parce qu'en retraite, en général, il y a une tentation pour les âmes. Enfin, une tentation, une douce tentation. C'est de s'occuper, dès le début, de nous. Comment je vais régler ma vie désormais ? Ah, je m'aperçois que ça ne va pas. Il y a ça qui ne va pas dans ma vie, il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas. Alors la prière ne va pas bien, les défauts, ça ne va pas bien, etc. Alors, bon, je vais voir comment je vais combattre, par exemple, mon impatience, comment je vais combattre ma paresse, bon, comment je vais être moins médisante, etc. etc. Bon. Et puis, je vais me faire un règlement de vie. Non, ça, c'est pour après. C'est en fin de retraite. Premier mouvement de notre retraite, ça ne doit pas être de poser notre regard sur nous, mais sur Dieu. Alors, dans votre prière, c'est très important. À la chapelle, de contempler Dieu lui-même. Alors c'est ce que nous allons faire aujourd'hui, ce matin. Alors, pour être bien dans la logique de tout cela, nous ne parlerons pas vraiment de Dieu par rapport à notre vie spirituelle. Parce que c'est encore Dieu et nous. Nous parlons de Dieu. Nous pourrions parler longuement de Dieu et de notre vie spirituelle. Ce serait très bénéfique. Le bon Dieu est l'objet de notre vie spirituelle. Elle porte sur lui. Pourquoi ? Parce que les vertus théologales, ce qu'on appelle les vertus théologales, c'est-à-dire la foi, l'espérance et la charité, ont pour objet Dieu. Or, notre vie spirituelle, c'est d'abord ses vertus, c'est d'abord la charité. Donc notre vie spirituelle a pour objet Dieu. Nous pourrions dire également que la source de notre vie spirituelle, c'est Dieu encore. La source de notre vie reste sur Dieu, mais elle est produite par Dieu. Je vous le dis en passant, si vous, ce sont des choses qui vous font du bien, vous pouvez toujours vous attarder dessus après l'instruction. Je vous l'ai dit en passant, nous ne nous attarderons pas, mais le bon Dieu, c'est lui qui produit notre vie spirituelle. Parce que notre vie spirituelle, qu'est-ce que c'est? C'est la grâce. Et la grâce qu'il a fait, c'est Dieu. Donc c'est le bon Dieu qui produit notre vie spirituelle et qui amène notre âme vers lui. On pourrait dire encore que le bon Dieu, c'est même ce qu'on appelle en théologie ou en philosophie la forme de notre vie spirituelle. C'est-à-dire, en gros, c'est la nature de notre vie spirituelle. Pourquoi? Parce que la nature de notre vie spirituelle, c'est la grâce. Et que la grâce, c'est une participation, c'est-à-dire, si vous voulez, une petite partie de Dieu. La grâce est une partie de Dieu. Une participation, comme dit saint Thomas, de Dieu. Donc, Dieu est même la nature de notre vie spirituelle, pour ainsi dire. Il faudrait mettre des guillemets, quand même, pour ne pas tomber dans des erreurs. Vous voyez que le bon Dieu, c'est l'objet de notre vie spirituelle. C'est lui qui l'a fait, c'est la source. C'est lui qui la constitue, c'est la nature. Et toute notre vie spirituelle, elle est au service de qui? Quelle en est la finalité? C'est Dieu. Donc même, il en est même la finalité. Notre vie spirituelle est là pour Dieu. Ad maiorem Dei gloriam, comme disent les jésuites. Tout est pour la gloire de Dieu. Donc si le bon Dieu, c'est l'objet de notre vie spirituelle, s'il en est la source, s'il en est même d'une certaine façon la nature, s'il en est la finalité, le motif, l'aboutissement, alors le bon Dieu est partout dans notre vie spirituelle. Et nous, nous sommes un peu, pour ainsi dire, nous devons nous cacher. Nous cacher. Pour que Dieu transparaisse. Dieu est le tout de notre vie spirituelle. Mais ce n'est pas sur cela que nous attarderons aujourd'hui, non. Nous attarderons sur Dieu lui-même. Sur Dieu lui-même, sur ses perfections, tout simplement. Pour le regarder. Pour en tirer, bien sûr, quelques leçons pour notre vie quotidienne. Mais surtout pour le regarder. Quand on ouvre la somme théologique de saint Thomas d'Aquin, dans sa première partie, le tout premier aspect de Dieu sur lequel se penche saint Thomas d'Aquin, après son existence, bien sûr, le saint Thomas dit « Dieu existe », bon, ça, c'est rassurant, mais il se penche sur sa simplicité. Sa simplicité. Étonnant. C'est la question 3, la première partie. Dieu est simple. Pourquoi est-ce que saint Thomas donne cet aspect de Dieu, si vous voulez, cet attribut de Dieu? Dieu est simple. Peut-être parce que saint Thomas veut nous faire comprendre combien le bon Dieu est différent de nous, qui ne sommes pas simples. Dieu est autre que nous. Il est l'autre. Il est l'autre. Le mystérieux. Le mystère. Loin de nos calculs humains. Calculs compliqués. Composés. Loin de notre sophistication perpétuelle. Alors qu'est-ce que ça veut dire, le bon Dieu est simple? Ça veut dire ceci. Saint Thomas, dans son langage très précis, dit que ça veut dire qu'il n'est pas composé. Qu'est-ce que ça veut dire composé? Quand on dit de quelqu'un qu'il est composé, ça veut dire qu'il se fait un personnage. Ce n'est pas ça. Enfin, ce n'est pas ça essentiellement. C'est aussi ça, mais ça n'est pas d'abord ça. Qu'est-ce que ça veut dire, Dieu est simple? Ça veut dire qu'il n'est pas composé dans le sens où il n'y a pas en lui de partie. Par exemple, si je prends ma montre, en elle, il y a des parties. Il y a le bracelet, puis il y a le corps de la montre. Il y a un devant, un derrière. Un en haut, un en bas. En Dieu, il n'y a pas de partie. Si on prend l'être humain, par exemple, il y a le corps et l'âme. Ça fait deux. Puis dans le corps, il y a des parties. Et même dans l'âme, d'une certaine façon, il y a des parties. Et tout ça, il n'y a pas en Dieu. Il n'y a qu'un. Il n'y a pas plusieurs en Dieu. Il y a plusieurs, bien sûr, dans le sens où il y a la Sainte Trinité. Mais il n'y a pas plusieurs... ne compliquons pas, justement. Il n'y a pas plusieurs au sens de composition. Il n'est pas compliqué. Il est d'une pièce. D'une pièce. Entier. Dans notre langage, on dirait qu'il est tout entier. Il n'est que lui. Prenons un exemple. En Dieu, l'intelligence, c'est Dieu. La volonté, c'est Dieu lui-même. En Dieu, l'amour, c'est Dieu. En Dieu, la force, c'est Dieu. Tout est Dieu en Dieu. Tout est entièrement Dieu. Il n'y a pas d'un côté la justice, de l'autre la force, de l'autre la volonté, de l'autre l'intelligence. Tout ça, c'est Dieu. Dieu est simple. Et saint Thomas ajoute, il est simple en particulier parce qu'il n'a pas de corps. S'il avait un corps, il aurait aussi une âme. Il serait plus simple. Il y aurait le corps et l'âme. Non. Il a pris un corps, mais il n'en avait pas. Vous voyez, sur cette peinture, nous avons notre Seigneur avec saint Jean-Baptiste. Mais ça, ce n'est pas le corps divin. C'est le corps du Dieu fait homme. C'est le corps du Dieu fait homme. Parce que Dieu en lui-même est intouchable. Et le geste de l'apôtre saint Thomas, qui va, le geste de l'apôtre saint Thomas au lendemain de la résurrection, va, enfin au lendemain, une semaine après, va à l'homme qui est Dieu, et non pas au Dieu qui s'est fait homme. Dieu est invisible. Saint Paul nous dit, nul ne l'a vu. Nemo vidit, personne ne l'a vu. Vous savez, chers amis, il faut savoir prier là-dessus. C'est pas facile. Ça fait du bien, voyez, à l'âme. Et ça fait surtout du bien à Dieu. Il faut prier comme cela. Regardons, bon Dieu, simplement. En vos méditations. Seigneur mon Dieu, vous êtes simple. En vous, il n'y a pas de corps. Vous êtes un, vous êtes tout entier. Vous êtes d'une pièce, pour ainsi dire. Bien, je vous adore. Et par conséquent, le bon Dieu ne s'atteint pas avec les sens, il s'atteint avec la foi pure. Et donc pour croire, je n'ai pas besoin de toucher, je n'ai pas besoin de voir pour croire, puisque je crois en Dieu et que Dieu ne s'atteint pas par la vue, par le toucher. Et donc la piété chrétienne se fonde sur la foi et non sur la sensation. Elle ne se fonde pas sur le cœur qui bat, sur la larme qui coule, ni même sur l'apparition. Aussi bonnes soient les apparitions reconnues, la piété chrétienne ne se fonde pas sur ça. Elle est au-dessus. Une conséquence de cette simplicité du bon Dieu, c'est que tout ce que le bon Dieu fait, pardon, lorsque le bon Dieu fait quelque chose, cette action qu'il fait, cette action, c'est lui. Vous voyez, nous, lorsque nous faisons quelque chose, nous ne sommes pas notre action. Par exemple, je me mets à marcher. Je ne suis pas ma marche. Sinon, je marcherai toujours. C'est pas compliqué. Eh bien, dans le bon Dieu, c'est différent. Le bon Dieu, chaque fois qu'il agit, il est son action. Par exemple, lorsqu'il crée, lorsqu'il nous crée, son action de nous créer, c'est lui. C'est pour ça qu'on dit « le bon Dieu crée de toute éternité ». C'est-à-dire que dans son action, il s'investit tellement dans son action qu'il s'y investit tout entier. Et il s'y investit tellement tout entier qu'il est son action. On peut dire Dieu est création, par exemple. Dieu est création. Et c'est pour ça que notre Seigneur dit à Sainte Marthe, je crois, « Je suis la résurrection et la vie. » Pourquoi il dit « Je suis la résurrection » ? Non, bien sûr, je ressuscite les morts, mais je suis la résurrection, parce que tout ce qu'il fait, il l'est. Plus précisément, lorsqu'il agit, il est son action. Alors, prions là-dessus, et puis regardons un petit peu, tâchons d'arriver à ce modèle. Nous-mêmes, souvent, dans nos journées, nous agissons par routine, ou par contre-cœur, à contre-cœur, ou en façade. Nous agissons même parfois hypocritement. Nous ne sommes pas vrais. Nous ne sommes pas simples. Parce que parfois nos actions, les actions quotidiennes, sont ennuyeuses, pénibles, routinières. Faire la conversation, faire le ménage, ranger ses affaires, prier. Parfois, le corps fait ces choses-là, mais l'âme est ailleurs. Nous le faisons en ne nous y investissant pas. Nous ne sommes pas entiers, nous ne sommes pas d'une pièce. Le corps agit, mais l'âme est absente bien souvent. Par exemple, il s'agit de... Bon, je pense que la plupart d'entre vous sont des mères de famille ou... Lorsqu'il s'agit, par exemple, de préparer, de ranger la maison ou de préparer le repas, etc., souvent, bon, on est là, on fait l'action, mais l'âme est ailleurs. Pourquoi l'âme est ailleurs ? Parce qu'il y a des soucis, parce qu'il y a... parce qu'on aimerait faire autre chose, même, parfois. Trop souvent, on aimerait faire autre chose que ce qu'on fait. Mais il ne s'agit pas de faire ce qu'on aime, mais d'aimer ce qu'on fait. Il ne s'agit pas de faire ce qu'on aime, mais d'aimer ce qu'on fait. Et on rêve d'un martyr, alors on lit des vies des martyrs, on rêve d'un martyr où on serait dépecé, écartelé, coupé en morceaux, et le martyr de peler une pomme de terre ou de faire la cuisine, on ne le voit pas. Mais c'est là qu'est notre martyr. Et alors, que faut-il faire ? Il faut s'y investir totalement, comme le bon Dieu. Si le bon Dieu faisait cette chose-là, il s'y investirait totalement. Alors bien sûr, attention, on ne peut pas devenir Dieu. Il ne s'agit pas d'être gnostique. On ne peut pas devenir Dieu. On ne peut pas tellement approcher du bon Dieu qu'on s'identifie véritablement avec notre action. Que notre action, ce soit nous. Non. Mais... ce qu'on peut faire, c'est s'investir le plus possible dans notre action, c'est-à-dire dans la volonté de Dieu quotidienne. À épouser l'immolation quotidienne des petites choses à faire. Épouser l'immolation quotidienne des petites choses à faire. De même que le bon Dieu est simple, qu'il se donne tout entier, par exemple, le bon Dieu ne se donne pas, voyez, par exemple, le bon Dieu, lorsqu'il engendre le Fils, le Verbe, ne se donne pas plus que lorsqu'il crée une coccinelle. J'espère ne pas dire une hérésie. Dites-le-moi. Mais il ne se donne pas plus. Il le fait tout entier. Il le fait de tout lui-même. Alors, demandons cette grâce au bon Dieu d'arriver à contempler sa simplicité dans ses actions et de la contempler tellement que nous finissions par l'imiter. Le Don Marmion, je crois que c'est dans le Christ, le Christ dans ses mystères, dit qu'il y a une vertu propre dans la contemplation de notre Seigneur, et c'est vrai de Dieu aussi, qui fait qu'il suffit de le contempler pour que l'imitation de ses perfections vienne dans notre âme. C'est-à-dire, il dit en gros, il y a, par exemple, je contemple la simplicité du bon Dieu, je n'ai qu'à poser le bon Dieu, les yeux de mon âme, bien sûr, sur cette simplicité du bon Dieu, pour que cette simplicité vienne d'elle-même dans mon âme. Je n'ai pas besoin de me dire, je vais faire un effort pour être simple. Ça va très loin. Bien sûr, il faut prendre ça avec des pincettes, c'est-à-dire qu'il est bon de dire aussi, Seigneur, je veux être simple. Mais sachons que le seul fait de contempler le bon Dieu dans la prière produit des grâces d'imitation en notre âme. Mérite des grâces d'imitation en notre âme. Mais de toute façon, ce n'est pas pour ça que nous contemplons le bon Dieu, encore une fois. Nous contemplons le bon Dieu parce qu'il est Dieu. Pour prendre un exemple, cette peinture et toutes les peintures qui sont dans les musées, nous ne les contemplons pas pour nous, nous les contemplons pour elles-mêmes. Elles sont là pour représenter quelque chose, et c'est cette chose-là que nous contemplons. Nous contemplons Saint Jean-Baptiste, la Sainte Vierge, notre Seigneur, et c'est ça qui est intéressant, c'est pas nous. Quelqu'un qui va voir un tableau, il regarde le tableau. Il ne met pas devant le tableau un miroir pour se regarder. Quelqu'un qui ferait ça dans un musée, on l'enfermerait bien vite. Alors pourquoi faisons-nous ça dans la prière? Dans notre prière, au lieu de regarder le bon Dieu, nous mettons un miroir. Ou que je suis beau, ou que je suis laid. Tiens, je suis impatient, je suis égoïste, ou alors que je suis charitable, ou que je prie bien. Non, ça peut être... Alors imitons cette simplicité du bon Dieu et contemplons surtout cette simplicité du bon Dieu. Et faisons tout avec la simplicité du cœur, en nous donnant totalement dans le devoir quotidien, entièrement. Les petites choses quotidiennes, je les fais avec tout moi-même. Tout moi-même, pour Dieu. Il faut lire le Père Caussade là-dessus, non ? L'abandon à le traité de l'abandon. Il explique très bien comment il faut faire table rase du passé, table rase de l'avenir, et chaque chose le faire avec tout son cœur. Et là, on devient simple. C'est comme ça que fait le bon Dieu. Il s'applique à toutes les choses, les petites choses qu'il fait, même créer une coccinelle ou l'entretenir dans l'existence, il le fait tout lui-même. Faire les petits devoirs avec la même application que les grands, nous dit Sainte Thérèse. Sainte Thérèse d'Enfant Jésus disait, il ne s'agit pas de faire des choses extraordinaires. Il s'agit de faire les choses ordinaires d'une manière extraordinaire. C'est ça que fait le bon Dieu, voyez. Les petites choses ordinaires, créer une coccinelle, l'entretenir dans l'existence, venir dans la Sainte Hostie, à la messe, enfin, venir dans le... transsubstancier le pain au corps, à son corps humain, des milliers de fois par jour, enfin, je sais pas, il y a combien de prêtres, je sais pas, peut-être pas des milliers, des centaines de fois par jour, eh bien, il le fait entièrement. Il nous faut le faire entièrement. Le bon Dieu est simple dans ses actions. Mais il est simple aussi dans ses procédés. Il est simple dans ses procédés, dans sa manière de faire. Quand il a à dire quelque chose, il ne prend pas de détour, le bon Dieu. Pas toujours. Et quand il en prend, c'est prudence. Et non pas sournoiserie. Je ne sais pas si c'est un bon mot, sournoiserie. Si. Ça va ? Pilate lui dit, est-ce que tu es roi ? Rex sum ego, je suis roi. Moïse. Il lui dit, je suis celui qui suis. Il dit ce qu'il a à dire sans détour. Il est prudent, mais pas tortueux. Prenons un exemple. Le bon Dieu veut régner sur les sociétés. Mais quand il veut régner sur les sociétés, il ne cherche pas à le faire par une sorte
d'imprégnation lente du pays par le petit nombre des chrétiens. C'était l'idée de Maritain, je crois. Maritain des mauvaises années, si tant est qu'il y a eu des bonnes années chez Maritain. Mais Maritain dit, bon, mon Dieu, le christianisme doit imprégner la société par comme le ferment dans la pâte, par le petit nombre des chrétiens, l'élite qui doit tout doucement germer. Et donc l'État ne doit pas être chrétien. Mais ça, c'est pas la simplicité du bon Dieu. Le bon Dieu, comment il veut régner dans la société ? Il dit que le roi doit être chrétien, c'est pas compliqué. Les lois doivent être chrétiennes. Ça, c'est la simplicité de Dieu. Simple dans ses procédés. Il cherche à régner au grand jour, directement. Notre Dieu est prudent, mais il est simple, franc. Franc. Ouvert. Il affectionne les voies les plus directes possibles. Il est la lumière du monde. La lumière va droit. Hein. Regardez un rayon lumineux. Un rayon du soleil, ils vont droit. Il est simple comme la colombe et prudent comme le serpent. Alors contemplons cette simplicité dans les procédés du bon Dieu. Regardons notre Seigneur. On lui présente Numisma Sensus, une pièce d'argent. On lui dit, est-ce qu'on doit payer l'impôt à César ? Pourquoi me tentez-vous hypocrite ? Hypocrite. Vous faites quelque chose, mais votre cœur est ailleurs. Vous dites quelque chose, mais votre intention, c'est de me piéger. Hypocrite. Bon Dieu n'est pas comme ça. Et si nous contemplons suffisamment dans la prière sa simplicité de Dieu, alors le bon Dieu nous donnera la grâce d'être direct aussi, d'éviter les procédés tortueux, sournois. Pardonnez-moi, mais souvent, lorsque les femmes ont quelque chose à demander à leur mari, il y a parfois un manque de simplicité. Alors, elles commencent, par exemple, lorsqu'il s'agit de demander, il faudrait changer les volets, de dire, bon, alors on dit, ça serait bien de changer les volets. Non, il n'est pas question de changer les volets, j'en veux rien. D'accord, alors l'épouse part et puis elle pense à autre chose. Il dit, bon, tu as raison, on ne va pas changer les volets. Bon, le mari est content, il a gagné. Et puis, quelques jours après, elle revient à la charge. Tu sais, les volets, quand même, ils grincent. Hein. Puis, la pluie les a bien abîmés. Bon, je comprends bien, tu ne veux pas qu'on les change, hein, je suis d'accord avec toi. Hein. Mais, ça va être embêtant si on ne les change pas, quand même. Hein. Bon, enfin... Non, tu m'as déjà demandé, je ne veux pas qu'on change les volets. Bon, d'accord. Troisième coup, une semaine après, l'épouse va faire un très bon repas à son mari. Elle va faire les petits plats qu'il aime, et puis, au moment d'entre fromage et le dessert, tu sais quand même, si tu voulais me faire plaisir, les volets, il faudrait les changer quand même. Oh, mais tu me l'as déjà demandé quand même. Là, le mari est plus déjà ferme, il n'est plus déjà aussi ferme. Hein, parce qu'il a du fromage entre les dents et puis une bonne bouteille de vin. Alors la fermeté du mari a décliné. Hein. Non, quand même, ne m'en venue pas avec ça. Aussi quand même, et pas tout doucement. Et puis voilà, finalement, elle gagne. D'accord, tu auras tes volets. Ça a pris un mois. Les procédés qui ne sont pas toujours. Direct. C'est toujours Don Marmion qui dit souvent l'obéissance, on a une manière d'obéir qui est de persuader le supérieur de notre volonté au lieu de nous plier à la volonté du supérieur. Alors l'obéissance de la femme vis-à-vis de son mari, qui n'est bien sûr pas la même que celle d'un religieux vis-à-vis de son supérieur, mais il y a quand même une obéissance, c'est Saint Paul qui le dit. Il faut faire attention que ce ne soit pas d'amener le mari à notre volonté, à sa volonté. Bien sûr, il faudrait reparler encore de ces choses-là, parce que c'est une obéissance au sens strict qui vaut pour les grandes choses. Pour les petites choses, il doit y avoir surtout conseil et dialogue. Enfin, bon, vous avez compris ce que je voulais dire. Il faut avoir cette simplicité du cœur, cette entièreté, de droiture dans les procédés. Comme le disait le père Ducos Bourget, vous connaissez son invocation, simplifions, priez pour nous. Hein ? Simplifions, priez pour nous. Le bon Dieu est simple. Et saint Thomas nous dit dans la question 20, il est amour. Le bon Dieu est amour. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Saint Augustin nous dit, qu'est-ce qu'on pourrait mieux dire de l'amour de dire qu'il est Dieu ? Qu'est-ce qu'on pourrait mieux dire de l'amour de dire qu'il est Dieu ? C'est dans son traité sur le premier épître de saint Jean. C'est saint Jean qui pousse ce cri aussi dans les Éphésiens, chapitre 4. Verset 16, Dieu est amour. Une femme pourrait-elle oublier ses enfants ? Je ne t'oublierai pas. Et comme le bon Dieu est simple, il est pur amour. Il n'est pas amour mélangé. Comme il est simple et qu'il est amour, il est amour simple, amour pur, amour non mélangé. Il est bel amour, le bel amour, dans les cantiques. L'Église met cette parole du Cantique des Cantiques sur, l'élève de la Sainte Vierge Marie. Mater pulchre dilectionis, je suis la mère du bel amour. Qui c'est le bel amour ? C'est Dieu. Mère de Dieu. Mère du bel amour. Amour sans mélange. Donc pur, donc beau. Sans mélange de froideur. Amour de pure volonté. Qu'est-ce que c'est l'amour d'abord ? L'amour, c'est la volonté qui s'élance vers le bien. Quand on parle du cœur, qu'est-ce que c'est le cœur ? Ce n'est pas tant le cœur de chair, ni même la sensibilité, c'est la volonté. C'est ça le cœur. La volonté qui cède de la sensibilité, mais c'est d'abord la volonté. Je veux. Je veux le bien de celui que j'aime. Je veux le bien de Dieu. Et le bon Dieu veut son bien. Donc le bon Dieu s'aime. Et comme son action, c'est lui, le bon Dieu est amour. Bon Dieu qui se porte dans son amour vers son bien à lui. Pour le coup, il se contemple dans un miroir, c'est vrai. Mais il n'y a aucun égoïsme là-dedans, parce qu'il y a trois personnes. Bon Dieu qui se contemple, c'est le Fils. Ça produit une autre personne. Nous, lorsque nous regardons dans un miroir, eh bien, nous ne produisons pas une autre personne. Autrement, au bout de quelques années, il y aurait beaucoup de monde. Voyez. Le bon Dieu, lorsqu'il se contemple, ça produit une autre personne. Ça produit le Fils. Et lorsque le Fils et le Père s'aiment, ça produit encore une autre personne. L'amour de Dieu. Amour infini parce que Dieu sait son amour. Et lorsqu'il nous aime, c'est d'un amour infini. L'amour en Dieu, c'est Dieu qui s'élance vers lui-même, qui s'étreint lui-même. C'est l'étreinte commune du Père, du Fils et du Saint-Esprit, étreinte éternelle. Étreinte éternelle. C'est Dieu qui s'élance vers nous, parce qu'il a mis du bien en nous, pour mettre du bien en nous. C'est Dieu est notre amour. Notre amour, l'amour qu'a le bon Dieu pour lui, pour nous, c'est lui. Amour infini, mais un amour ordonné, parce que l'amour est ordonné. Il y a de l'ordre dans l'amour de Dieu. Il nous aime pour lui. Il nous aime pour lui. Pour nous amener à lui, au paradis. Au paradis, nous sommes la gloire de Dieu. Nous sommes la gloire de Dieu. Nous serons, si le bon Dieu nous donne d'être fidèles, de mourir en état de grâce, loin du péché mortel, nous serons au paradis la gloire de Dieu. Car notre fidélité sera pour lui une louange. Et c'est là que nous réaliserons l'amour de Dieu pour nous, pour lui, en l'aimant à notre tour, du même amour qu'il nous aime. C'est dans le psaume des Vêpres de dimanche, j'espère que vous assistez à Vêpres le dimanche, sinon je vous y encourage vivement, plus il y a de fidèles à Vêpres le dimanche, mieux c'est. Parce que souvent, on voit beaucoup de gens à la messe, bon, c'est vrai que souvent il y a des questions de distance, hein. Mais on voit beaucoup de gens à la messe, mais à Vêpres, c'est Saint-Jean-Baptiste qui crie dans le désert, il n'y a plus personne. Et alors, c'est vrai que souvent, l'office de Vêpres est un peu moins soigné au point de vue de la liturgie, des chants, de l'orgue, etc., que la messe. Mais c'est sûr aussi que s'il y avait plus de fidèles, on y arriverait mieux. On ferait quelque chose de mieux. Hein. Important, l'office des Vêpres. Parce que dans l'office des Vêpres, il y a une participation du fidèle à la liturgie non sacrificielle. C'est-à-dire qu'on participe à la liturgie, vous savez ce que c'est la liturgie ? La liturgie, c'est la prière de l'Église, prière officielle de l'Église, pas compliqué. Donc la prière officielle de l'Église qui comprend la messe, les sacrements, l'office, qu'on appelle l'office, c'est-à-dire ce que dit le prêtre, le bréviaire. Essentiellement, c'est ça. Eh bien, quand on va à Vêpres, on participe à la liturgie, parce que Vêpres, ça fait partie de l'office, donc ça fait partie de la liturgie, mais c'est une liturgie qui n'est pas des sacrements. Ce n'est pas un sacrement, Vêpres, et ce n'est pas non plus la messe. Et donc, on s'attache à la liturgie, mais pas parce que c'est la messe, ni parce que c'est un sacrement. Or, la messe et les sacrements sont éminemment utiles à notre âme, tandis que l'office est très utile à Dieu. Bon, il faudrait faire des explications, la messe aussi est très utile à Dieu. Mais lorsque nous allons à l'office, nous y allons vraiment pour Dieu. Nous n'allons pas recevoir un sacrement, nous n'allons pas recevoir la communion, nous allons pour Dieu. J'ai chanté les louanges de ceux que j'aime. Et alors, si vous comprenez pourquoi l'office nous apprend ce que nous disons ce matin, cette pure prière pour Dieu, cet oubli de soi dans la prière, voyez, qui est difficile, attention, difficile. Mais justement, Vêpres l'apprend. Le bon Dieu n'est plus prié aujourd'hui. Le bon Dieu n'est plus prié, il n'est plus loué. Alors si on ne va pas à Vêpres, qui ira? Donc le bon Dieu nous aime pour lui. Et à Vêpres, nous disions le dimanche, non nobis domine, non nobis et nomini tuo da gloriam. Ne donnez pas la gloire à nous, ne la donnez pas à nous, donnez-la à vous. Donnez la gloire à vous, Seigneur, pas à nous. Vous voyez, on a souvent une image du ciel qui est finalement toujours anthropocentrique, c'est-à-dire dont le centre c'est nous, l'homme. Je serai là au ciel, j'aurai un bon repas devant moi, tous mes amis qui seront autour, ma famille, puis le bon Dieu qui s'occupera de moi pour me servir. Et puis je pourrai voir la Sainte Vierge aussi, je vais mettre sous son manteau, et puis voilà, donc ce sera ça le ciel, quoi. En gros, c'est le ciel qui gravite autour de nous. Mais non, le ciel ne gravite pas autour de nous. L'axe des pôles du ciel ne nous passe pas par nous. C'est nous qui gravitons autour de Dieu. Ce sont les âmes qui gravitent autour de Dieu, qui sont plongées en Dieu, dans l'amour de Dieu. Et donc, l'amour de Dieu qui a sauvé les âmes au ciel, c'est pour lui. L'amour de Dieu est pour lui, et non pas pour nous. Remarquons que l'amour de Dieu s'accompagne d'une grande haine pour le mal. Le bon Dieu haït le mal. Il haït l'erreur, il haït le péché. C'est la grande erreur des modernistes de dire « Ah, la religion catholique n'est pas une religion de haine. » Si. Si. La religion catholique n'est pas une religion d'amour, une religion de haine, mais une religion d'amour. C'est pas vrai. La religion catholique, parce qu'elle est une religion d'amour, est une religion de haine. Mais de haine de quoi? De haine de l'erreur. De haine du péché. Pas de haine des hommes, bien sûr. Mais de haine de l'erreur et du péché, certainement. Et donc, cet amour de Dieu, c'est pas un amour sentimental non plus. C'est pas un amour aveugle. C'est pas un amour libéral. Dieu n'est pas libéral. L'amour de Dieu s'accompagne de la haine du péché. Voilà quelle est la couleur de l'amour de Dieu. Le bon Dieu haït le péché. Il déteste notre péché. Ça peut être une bonne aide lorsque nous allons préparer notre confession. Ce péché que j'ai fait là, le bon Dieu le déteste. Le bon Dieu le déteste. Est-ce que nous détestons assez le péché ? La tiédeur commence souvent par le manque de détestation pour le péché. Souvent. Demandons-nous quelle est notre détestation du péché et nous verrons quel est notre état, l'état de l'amour de Dieu en nous. L'amour de Dieu est comme le cristal. Pas d'impureté en lui. Et cet amour, c'est un amour pour nous. Nous sommes beaucoup plus aimés de Dieu que nous le pensons. Le Saint Curé d'Ars disait, si nous savions combien le bon Dieu nous aime, nous en mourrions instantanément. Si nous savions comme le bon Dieu nous aime, nous en mourrions de joie. Sicci res donum Dei, notre Seigneur à la Samaritaine, si tu savais le don de Dieu, quel don ? C'est son amour, mais son amour c'est lui. Le don de Dieu, c'est Dieu. Si tu savais Dieu, Dieu qui se donne. Nous savons mieux quel est l'amour du bon Dieu pour nous en regardant la croix. Dieu qui souffre par amour. Ça nous donne une idée de l'amour de Dieu. Si nous voulons savoir combien Dieu est amour, regardons la croix. C'est vertigineux. L'Eucharistie. Dieu qui se donne à manger. Si une femme pouvait se donner à manger pour ses enfants, elle le ferait. S'il n'avait rien d'autre. Bien, Dieu se donne, enfin peut-être pas, je ne sais pas. Mais Dieu se donne à manger pour nous. C'est Bossuet qui dit ça, donc je me cache derrière Bossuet. Mais là, c'est Dieu qui se donne. Dieu qui se donne. L'Eucharistie, Notre-Dame. Alors, parfois dans nos journées, nous sentons peut-être découragés. Découragés par nos fautes, découragés par les croix à porter. J'arrête à 10h, hein, c'est promis. Découragés par nos croix à porter. La fatigue. Les enfants qui font problème. Eh bien, pensons à ce que dit Sainte Thérèse d'Avila. Seigneur, vous savez tout, vous pouvez tout et vous m'aimez. Vous savez tout, vous pouvez tout et vous m'aimez. La souffrance d'ailleurs est un marque d'amour, une marque d'amour. Si Dieu nous aime, c'est qu'il nous fait souffrir. S'il nous fait souffrir, c'est qu'il nous aime. Regardez l'amour du bon Dieu pour son fils. Il ne lui a pas offert les coussins et les palaces, il lui a offert la croix. Voilà l'amour de Dieu pour son fils. Alors s'il nous fait souffrir dans notre vie quotidienne par les enfants, par les amis, par l'insuccès, par la solitude, par les tentations, par la sécheresse, par la pauvreté. Dieu nous aime. Et c'est un amour qui demande le renoncement au confort. Alors voilà, dans notre prière, donc, aimons à contempler le bon Dieu, à poser les yeux sur lui. Et à s'oublier totalement, à contempler sa simplicité, son amour. Dieu est simple, Dieu est la simplicité, Dieu est l'amour. Alors, il ne faut pas se faire d'illusions, c'est pas facile. C'est pas facile de poser le bon Dieu, le regard sur le bon Dieu en s'oubliant soi-même, c'est pas facile. Et les plus grands saints n'y arrivaient pas totalement. Il faut une grâce des plus élevées qui est compté au nombre des grâces mystiques les plus élevées, qui est réservé aux plus grands saints, de ne plus se regarder soi-même. Donc nous n'allons pas y arriver demain, ça c'est sûr. Hein. Mais tout doucement, il faut s'efforcer de s'oublier, hein, et de se simplifier. Il faut s'efforcer de regarder le bon Dieu et pas trop soi-même. Hein. Alors on n'y arrivera pas aujourd'hui, peut-être pas demain, peut-être pas à la fin de la retraite. Hein. C'est sûr, c'est difficile. Difficile parce qu'on n'a pas l'habitude. On est rempli des choses du monde, de nous-mêmes, et regarder le bon Dieu, lui, apprendre à le contempler, simplement, c'est pas facile. C'est pas facile pour personne, ni pour vous, ni pour moi. Qu'est-ce que vous laissez comme ça? Mais il faut s'efforcer. Il faut s'efforcer. Hein, le cardinal de Bérulle nous le dit. Il faut premièrement regarder Dieu. C'est le cardinal de Bérulle qui le dit. Il faut premièrement regarder Dieu. Donc c'est sous son autorité que je pourrais me ranger. Je crois qu'il faut vraiment faire l'effort. Hein, ce ne sera pas facile, c'est sûr, mais vous allez voir comme ça simplifie notre âme, ça simplifiera notre âme si nous y arrivons. Hein. Et demandons cette grâce à la Sainte Vierge, parce que c'est un modèle de prière, la Sainte Vierge. Elle regardait son Fils, tout le temps son Fils. Tout le temps son Fils. Et quand il était mort, elle l'avait encore dans la prière. Elle ne se regardait pas, la Sainte Vierge. Et Cianci la Domini, voyez. Le bon Dieu. C'est une grâce difficile. Et puis si on y arrive un tout petit peu, si on y arrive 10 secondes, mais c'est déjà 10 secondes de gagner. Hein, voilà, courage.